Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission qui vous propose des échos des rencontres du légendaire qui se sont déroulées les 9 et 10 novembre dernier dans le cadre du Festival du Légendaire, 20e Festival du Légendaire organisé par la compagnie AMSA, un événement eurélien qui vous permet chaque année d'explorer le conte et l'imaginaire sous toutes ses formes. Radio Grand Ciel était partenaire des rencontres de l'imaginaire et a assuré la captation sonore des tables rondes proposées au cours de ce week-end. Nous allons retrouver une nouvelle et dernière table ronde pour cette édition 2019, Éducation populaire et publics éloignés, quand l'imaginaire émancipe, c'est son thème. Elle réunit les conteurs Gigi Bigot et Pepito Matteo, également la diseuse de poèmes Sabine Ronet, Emmanuel Granvaux, chargé de mission culturelle à la Ligue de l'Enseignement 28, la Ligue également représentée par le modérateur de ce débat, Damien Ménil.
Eh bien, je vais vous présenter les gens qui sont autour de moi, vous rappeler aussi la thématique, éducation populaire et public éloigné, quand l'imaginaire émancipe. À ma gauche et tout au bout de la table, mais ça, j'ai pas besoin de la présenter puisque les gens qui sont dans la salle sont venus pour l'écouter. Gigi Bigot, enseignante au départ, conteuse, après étudiante, et oui, étudiante après. 60 ans, à 60 ans, mais aussi, là, et dans ce qui nous concerne aussi aujourd'hui, engagée et militante pour le mouvement ATD Quart Monde en Bretagne, à Rennes, ouais. À ma gauche, Emmanuel Granvaux et ma collègue à la Ligue de l'Enseignement. Et Emmanuel est chargé de mission culture et intervient pour une grande partie de son temps en détention au centre de détention de Châteaudun. Voilà, pour la médiation culturelle, accueil d'artistes et organisation de toute l'année en service culturel à l'intérieur de la prison. À ma droite, Sabine Ronet, qui est, elle, diseuse de poèmes. C'est comme ça qu'elle aime qu'on la définisse plutôt que comédienne et qui a du coup consacré toute sa carrière, en fait, à la poésie. Et je dis sa carrière, même sa vie. Voilà, et pour introduire du coup la table ronde, je lui laisse la parole en poésie.
Lorsque j'étais enfant, je ne savais pas lire. Maman était ma bibliothèque. Je lisais maman. Un jour, le monde sera en paix. L'homme sera capable de voler. Le blé poussera en pleine neige. L'argent ne servira à rien. L'or servira à faire des tuiles. Le papier monnaie à tapisser les murs, les pièces à faire des ronds dans l'eau. Je serai un jour ce voyageur, chevauchant une grue rose venue d'Égypte, muni d'une pomme dorée et d'une bougie à la chevelure argentée. Je traverserai le pays des contes pour demander la main de la princesse de la ville des friandises. Mais en attendant, dit maman, il faut beaucoup travailler. Voilà, c'était Conte de fées du poète chinois contemporain Lu Yuan. J'ai beaucoup pensé à ce poème en écoutant Gigi Bigot hier pendant la conférence. Surtout en me disant, en attendant, dit maman, il faut beaucoup travailler.
Merci. Alors, avant de lancer une discussion, parce que du coup, on va être autour d'une table ronde, mais avant tout, une discussion entre les gens autour de la table ronde. Juste, on va essayer de nous vous donner nos définitions, nos petites pensées par rapport à la thématique qui nous rassemble. Et je vais demander du coup aux invités, en un seul mot, parce qu'on va le faire sous forme de jeu, de me répondre en fait sur les mots que je vous donne en fait. Alors, si je vous dis éducation populaire, vous me dites... Gigi.
Super.
Émancipation.
Tous.
Et si je vous dis imaginaire, vous me dites
Fenêtre.
Puissance.
Moi, imaginaire, je dirais nécessaire.
Et si je vous dis s'émanciper, vous me dites
Devenir libre.
Liberté.
Se révéler.
Alors pour certains, la culture est une boucle d'oreille. Alors que pour d'autres, c'est une oreille. En tout cas, éducation populaire, dans le populaire, il y a qui concerne le peuple. En fait, pour le peuple. C'est une éducation qui s'adresse effectivement, comme tu viens de le dire, à tout le monde, à tous. Et dans le mot éducation, on l'entend sous la façon, en tout cas, de l'ensemble des acquisitions morales, intellectuelles et culturelles de chacun. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais ça tout au long de la vie. Et c'est un peu la différence avec l'éducation nationale qui, à un moment donné, s'arrête. Notre scolarité s'arrête. Mais l'éducation populaire, elle, perdure jusqu'au bout de la vie, toute la vie, en fait. Et s'émanciper, c'était joli aussi parce que du coup, on a vraiment les belles choses. Dans le mot s'émanciper, il y a le fait de rompre les liens, en fait, en tout cas, de se libérer, de s'affranchir des contraintes sociales ou morales, de se libérer et de se rendre libre. Donc vous allez voir après dans les témoignages que voilà, tout ça va prendre son importance. Alors nous, en fait, on va donner la parole au public éloigné, en tout cas, comme on va vous les livrer, et on va demander à chaque invité un souvenir d'atelier, parce que je ne l'ai pas dit, mais aussi bien Sabine qu'Emmanuel, qui ne les anime pas, mais en tout cas qui les vit, et Gigi, ont animé des ateliers en fait, avec les publics, que ce soit en prison, que ce soit dans des structures sociales, que ce soit à l'hôpital, en tout cas dans des structures où les personnes n'ont pas accès à la culture sans qu'on vienne vers eux, qui ont besoin en tout cas qu'on aille vers eux pour accéder à cette culture. Donc on va donner la parole à ce public-là avec des souvenirs d'atelier, une rencontre singulière pour imager le pouvoir de l'imaginaire. Tu commences, Brigitte ? Un souvenir.
Oui, là il y a un souvenir qui me revient, c'est dans l'atelier que je fais à TD Carmonde, on s'appelle le quartier de la Lune, et il y a des... Il faut que j'explique quand même, sinon... Il y a des gens en grande pauvreté, en grande précarité, et puis il y a deux personnes, dont moi, qui ne sommes pas des personnes en précarité, mais qui sommes alliés. C'est-à-dire que nous sommes alliés du mouvement ATD Carmonde. Et les gens en grande pauvreté s'appellent les militants. Et nous étions à notre atelier pour inventer un conte. Et parmi les militants, il y avait Lucien, un sans domicile fixe. Quand j'ai demandé à tous les militants qui étaient là, il y avait peut-être 5 militants, hein, pas plus, on commençait à inventer le conte sur le thème « La misère n'a pas de couleur ». Et donc, on a pensé migrants, quoi. Et à un moment donné, une fois qu'on discute, je leur dis « Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Où est-ce que ça se passe ? » Alors, un village, etc. Qu'est-ce qu'on voit ? Et Lucien donne... Donc, sans domicile fixe, hein, il dit, on voit la bibliothèque. Tu vas dire, ben, il va voir l'épicerie, il va voir la boulangerie, il va voir le café. Non, Lucien, il a vu la bibliothèque. Et ça m'a donné après l'idée d'un conte, un tout petit conte, on verra plus tard, quoi. Mais pas maintenant, mais c'est pas le moment. Mais et c'est ce qui m'a donné cette réponse, parce qu'on a toujours des clichés, un sans domicile fixe, il ne va pas penser lire, livre et culture, quoi. Et voilà Pépito Matteo. T'arrives pas trop en retard, ça va. Et donc voilà mon souvenir. Voilà. Lucien, il dit la bibliothèque. Alors il y a eu la bibliothèque dans notre compte.
Alors, comme je disais tout à l'heure, Emmanuelle, ma collègue, elle intervient en détention, elle n'anime pas, et encore, quoique, il y a des ateliers qui sont animés, évidemment, pas d'un point de vue artistique, mais il y a des ateliers qui sont animés. Et c'est une rencontre quasi quotidienne, en fait, avec les détenus. Et par contre, une programmation culturelle à l'année, c'est-à-dire comme un centre culturel, à l'intérieur de la détention. Et je crois que tu as des paroles de détenus, c'est ça? Ouais.
Alors moi, c'était important pour moi de profiter de cette table ronde, la première à laquelle je participe, pour en fait porter la parole des personnes détenues. Et donc, je leur ai demandé depuis quelques semaines de m'écrire en fait des textes sur ce qu'ils pensent des activités culturelles et de l'imaginaire en général, en lien avec la table ronde. Et donc, avant de vous raconter un souvenir particulier d'un atelier, je souhaite porter la parole de Nidal. C'est sa définition de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est une image à la fois irréelle qui se rapproche du réel. C'est avoir sa propre traduction sans qu'elle ne soit réellement le sujet. C'est se laisser porter par ce qu'on aime pour pouvoir aimer l'inconnu. C'est une façon d'aimer même si on n'aime pas. L'imaginaire se rapproche plus de la beauté que de la peur. C'est créer son monde à soi dans sa tête. C'est dans la tête que tout se passe. Et donc si je me rappelle d'un atelier en particulier... C'est un atelier qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, le mois dernier, un atelier en danse contemporaine. Alors, faire entrer de la danse contemporaine en prison, ça peut paraître compliqué, on se dit comment ça peut être possible, justement. Moi, ce que j'aime bien, nous à la Ligue, en tout cas, ce qu'on aime bien faire, c'est de créer des rencontres improbables et de dire que tout est possible, justement. Et donc, lors de cet atelier de danse contemporaine, il y a eu 6 séances, animée par une chorégraphe qui s'appelle Sandrine Bonnet. Et donc, du coup, le tout premier atelier, lors des entraînements, donc, Sandrine demande aux personnes de circuler dans l'espace. Et en fait, on se rend compte que, naturellement, pour eux, malheureusement, ils reprennent un peu le mouvement le mouvement en fait, qu'ils font dans les cours de promenade, mais inconsciemment, en fait. Et donc là, ça pose question. On se dit, la prison, ça marque vraiment physiquement en plus, quoi. Et donc, du coup, il a fallu quand même plusieurs heures pour déconstruire tout ça et réussir à la fin à ce que ces personnes puissent s'éloigner physiquement des marques de la prison et s'émanciper par le biais de la culture.
Alors, vous avez bien vu, hein, on a à ma droite, accueilli Pépito. Pépito, on l'a invité sur la table ronde parce qu'actuellement il est sur Chartres, au foyer d'accueil Chartrain, en rencontre avec les résidents du foyer d'accueil Chartrain pour des ateliers, des échanges autour de la langue. Mais pas que ça, parce que Pépito, c'est je le présenter, il est conteur, il est metteur en scène, il est auteur, enfin il met en scène, c'est-à-dire il aide les jeunes conteurs à se mettre en scène. Enfin, il accompagne. En tout cas, c'est un compagnon de route d'autres conteurs. Et il est avant tout aussi formateur, c'est-à-dire il transmet. C'est quelqu'un qui aime donner son art, en tout cas, ne pas le garder pour lui. Et du coup, dans les ateliers avec les personnes dites éloignées, ça a une grande, grande importance. Alors, Pépito, d'ailleurs, j'ai demandé à tout le monde autour de la table, en fait, si en un mot, le mot éducation populaire, qu'est-ce qui t'évoque?
Trouver sa place.
Très bien.
Ça a déjà été dit? Ouais.
Non, même pas. En tout cas, Pépito, pour réagir, ou en tout cas, tout à l'heure on discutait, tu disais que tu intervenais quand même assez fréquemment. En tout cas, tu es déjà allé en détention.
Oui.
Et tu as mené des ateliers avec les détenus.
Oui, et donc justement, ce qu'elle disait me parlait parce que on est tous enfermés d'une certaine manière, même nous, dans nos idées par rapport à la prison. On croit que c'est comme ça la prison, mais quand on y va, on apprend beaucoup de choses, et notamment que les détenus, ce sont des gens aussi différents les uns que les autres, et puis ils ont tous un parcours... Et il faut arriver à décloisonner effectivement un petit peu, c'est-à-dire, nous on s'amusait à pousser les murs dans l'imaginaire, c'est-à-dire essayer de quitter le réel, parce que leur préoccupation c'est souvent quand est-ce que je vais pouvoir passer en jugement, quand est-ce que je vais pouvoir voir l'avocat, etc. Ils sont quand même préoccupés par ce qui va leur arriver, et donc déjà arriver à dire on va essayer d'inventer quelque chose qui nous concerne, mais c'est pas le réel tout de suite, c'est on est dans les images, on va s'amuser. Moi, j'amenais des cartes postales que j'attrapais dans les bars, des cartes de pub, et on jouait aux cartes. Donc, on inventait des histoires avec les cartes. Et au bout d'un moment, on oubliait totalement le bruit de la prison, l'odeur, le fait qu'on était enfermé dans une pièce qui n'était pas très grande, et on partait dans un voyage ensemble, où il n'y avait plus d'animateurs et de détenus, on était ensemble dans un voyage dans les images, on pourrait dire. Et chacun a ses images. Au fond, les images, c'est ça, pour ça que le travail de conteur m'intéresse, parce que, au fond, même quand on raconte une histoire, personne n'a les mêmes images. Et on est tous, c'est un peu nos empreintes digitales buccales, on a toutes les images depuis l'enfance de toutes les expériences sensorielles qu'on a faites. Et en prison, retrouver le sens des sens, justement, c'est vraiment important. Les images ne sont pas seulement visuelles, mais elles sont sensitives, elles sont olfactives, elles sont digitales, etc. Je ne sais pas si j'explique bien. Mais en tout cas, pour ne pas trop prendre la parole longtemps, ça m'a aussi révélé que les mots sont forcément porteurs d'images et que quelquefois les malentendus peuvent être créatifs ou peuvent être aussi des blocages. J'ai remarqué, moi, quand j'étais enfant, et je les retrouve en prison, je confondais le mot responsable et le mot coupable. Et je les retrouve en prison. On parlait de responsable, on disait non, attends, j'ai rien fait, moi. Enfin, alors que responsable, c'est être responsable, de prendre en responsabilité les choses. Et cette confusion. Le vol, par exemple, c'est un drôle de mot en français. Voler et voler. Voler à la tire et voler à tire d'aile. Enfin, les mots, tout à coup, prennent une importance et ils sont justement un jeu d'images qui nous permettent de comprendre qu'on n'est pas tous pareils et que, ben, au fond, ça nous donne la possibilité de reconnaître nos différences et d'être ensemble malgré tout.
Ça m'évoque plein de choses, mais je voulais juste rebondir sur une chose par rapport à ce qu'Emmanuel a dit sur la danse et sur ce que Pépito a dit. Moi, je dois avouer que j'ai eu, grâce à un des projets qui a été fait avec la Ligue, là, je crois que c'était, je suis sûre même, c'était à Châteaudun, en binôme avec une plasticienne, Luz Cartagena. Et je me souviens avoir eu, je ne sais pas, je me suis dit, il ne faut peut-être pas que je le dise, mais j'ai presque eu honte en sortant en me disant quel espace de liberté a été. Enfin, j'ai eu l'impression de sortir d'un espace de liberté grâce à un atelier qui avait eu lieu en voyant cette plasticienne qui, justement, au sein du gymnase, du centre de détention, elle permettait aux personnes participantes à mettre en valeur plastiquement les poèmes qu'ils avaient écrits avec moi. Et elle avait fait ça d'une telle manière au sein de ce gymnase qu'au contraire, ils n'étaient pas du tout enfermés dans un schéma. Ils étaient vraiment dans un espace de liberté. Je m'étais dit, mais est-ce que j'ai le droit de penser ça ? Voilà, que j'avais rarement senti. J'anime beaucoup d'ateliers d'expression poétique. Je me suis dit, ouais, ils font des trucs bien, la Ligue de l'enseignement. c'est utile, quoi.
Alors, on va poursuivre, mais je voulais vous livrer, moi, un texte qui avait été écrit dans le cadre d'un atelier d'écriture chanson à la maison d'arrêt de Chartres, qui est située juste derrière. On est à 100 mètres de l'ancienne maison d'arrêt de Chartres, qui a fermé en 2014. Et du coup, ça, c'était un jeune détenu, en fait, qui s'était livré, en fait, sur la nécessité d'écrire, alors pas que en détention, mais la nécessité d'écrire pour lui, à ce moment-là, c'était en détention, et est-ce que ça pouvait apporter de sens pour lui. J'écris l'endroit d'où je viens, j'écris mon quotidien, j'écris que sans volonté, j'écrirais pas aussi bien, j'écris pour m'encourager, j'écris pour me soulager, j'écris pour me consoler, j'écris pour toucher le sommet, j'écris pour mes frères qui sont tout pour moi, la vie t'a tellement mis de coups que tu ne les sens même pas. J'écris pour lui, elle, toi, je le crie sur les toits, j'écris pour le peu d'amis que je compte sur mes doigts. C'était écrit du coup en une semaine. Alors pour vous relater l'atelier, c'était une semaine d'écriture avec une comédienne chanteuse et un musicien. Et pendant la semaine, en fait, tous les jours, on se retrouvait pour mettre sur le papier les chansons. Et en milieu de semaine, là, le musicien arrivait et mettait la musique sur ses mots. Donc là, ça avait plutôt pris une forme scandée, plutôt proche du slam. Et ce détenu-là écrivait le soir en fait, dans la cellule pour revenir le lendemain avec de nouveaux textes, des nouvelles idées, quoi. On sentait vraiment un engouement en fait, pour la langue et là, à nouveau cet espace de liberté. C'est vrai que c'est paradoxal de le dire là, mais c'était ça en fait, c'est cet espace de liberté qui lui était donné de pouvoir dire ces mots en détention, alors qu'à l'extérieur, à l'école ou dans d'autres structures, il n'avait pas pu le faire en fait. Et la comédienne comme le musicien lui ont retourné en fait le fait qu'il avait cette belle voix, que ses textes n'étaient pas n'importe quoi et que du coup il y avait une valorisation de son travail. Donc ça, c'était extrêmement important de sortir de cette semaine-là aussi, voilà, là un peu la tête haute et avec l'envie de continuer. On peut continuer sur la détention, hein, mais il y a aussi d'autres structures. Je parlais tout à l'heure du CADA, donc le centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, où ça, je sais que Pépito, toi, tu as fait une expérience, en tout cas, tu es allé à la rencontre des gens dans les CADA, mais Sabine aussi, qui est juste à côté de toi, vous avez tous les deux, en fait, en tout cas, des rencontres particulières.
Quand on pense au CADA, donc Centre d'aide aux demandeurs d'asile, on pense surtout au logement, à l'urgence, aux problèmes administratifs à régler pour toutes ces personnes du bout du monde qui fuient des situations terribles et qui espèrent trouver l'arche de Noé en arrivant en France. Et puis c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, parfois... certains CADA, et puis aussi grâce à des associations partenaires. Il y a d'autres projets qui sont développés, autres que de résoudre ces problèmes-là, et on prend en considération le fait que les gens ont d'autres besoins, ont d'autres droits, et entre autres ce besoin d'exprimer sa sensibilité. Et on n'en parle pas souvent, parce que quand on parle des personnes migrantes, et tout ça, on pense surtout à un problème. Et on ne pense pas que c'est beaucoup de sensibilité, beaucoup de trésors qui nous arrivent et qu'on a beaucoup de chance, en fait, de les rencontrer. Alors moi, c'est ça que je peux raconter, que depuis que j'ai rencontré beaucoup dans des CADA ou dans des centres d'accueil et d'orientation, beaucoup de personnes du bout du monde, j'ai l'impression d'avoir énormément voyagé, avoir reçu énormément d'amour, m'être énormément cultivé. Donc je remercie beaucoup toutes ces personnes. Alors si je dois donner un exemple, j'en aurai plein. Mais là, j'avais envie de dire un petit poème parce que je pense à un des jeunes soudanais que j'ai rencontré. Et je pense à lui parce que lui, il n'a pas résolu ses problèmes. Donc, il n'a pas eu ses papiers. Alors que vous savez sûrement qu'au Soudan, c'est très, très compliqué. Ce qui se passe est de plus en plus. Enfin, aujourd'hui, tout de suite, je ne sais pas exactement où ça en est. Mais en tout cas... en général, les gens qui sont renvoyés là-bas sont dans c'est une situation terrible. Et du coup, ce jeune Salah, qui connaissait des poèmes beaucoup et qui en écrivait, il parlait suffisamment le français pour pouvoir traduire, aider son copain Abdulrahman à traduire un poème que lui avait écrit. Et j'ai envie de vous dire, c'est un poème qui fait partie d'un spectacle qu'on a fait donc avec une troupe de jeunes demandeurs d'asile du Soudan et de femmes congolaises et angolaises. Donc Abdulrahman, il l'avait écrit en arabe soudanais, et Salah, qui commençait juste à apprendre le français, l'a aidé. Donc c'est un petit signe à Salah qui a dû fuir, partir en Italie, je ne sais pas où il est aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ? Pourquoi le monde m'a séparé de mon amour ? Pourquoi le monde fait se rencontrer les amoureux et puis les oblige à se répondre « Allô ? Nous nous rencontrerons plus tard à Mougrane ?» Tes magnifiques yeux me font rougir. De tes lèvres sortent des mots très beaux. Mon amour, nous sommes loin, mais tout demeure entre nous. Et je ne laisserai pas ton amour, je t'aime de plus en plus. Voilà, j'avais envie de partager ces petites pépites de sensibilité et d'amour que les personnes nous apportent. Et voilà, pour dire... c'est ça aussi dont on parle tout le temps. On n'en parle pas souvent comme ça. Et le fait de pouvoir les rencontrer en faisant des ateliers, en les rencontrant avec comme seul passeport
Enfin, pour moi, c'est la poésie, mais ça pourrait être le conte. Ou, et ben voilà, on reçoit ces cadeaux-là.
Alors, je me tourne vers Pépito sur la rencontre dans les CADA ou...
Oui,
en tout cas, ce travail sur...
J'ai fait partie d'un premier projet qui s'appelait Mobilhome à Paris, et puis ensuite dans un CADA à côté de Shell. Et donc différentes rencontres. Et l'idée, c'était de les amener à raconter les histoires en vue de les raconter à un public. C'est-à-dire qu'ils avaient des difficultés avec la langue française, comme ceux avec qui je travaille en ce moment. Et l'idée, c'est d'essayer de leur faire comprendre des petites histoires. Alors, on fait plein d'exercices sur les mots, sur le corps, de communication, etc., pour se libérer un petit peu. Puis, petit à petit, je leur raconte des toutes petites histoires. Et il faut absolument qu'ils sachent le fil de l'histoire. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent la raconter dans leur langue, dans la langue française. On peut faire des mélanges, des traductions, etc. Moi, j'essaye de les aider à traduire. Et ensuite, on va raconter à des publics, et notamment en balade. Des publics qui voient des étrangers qui, normalement, ne parlent presque pas, leur raconter des histoires. Et comme ils les entendent en plusieurs langues, ils voient vraiment... les histoires se déroulaient devant eux, et c'est magique à la fois pour ceux qui racontent et pour ceux qui écoutent. C'est vraiment magique parce que ça leur donne beaucoup de force. D'une part, d'être écouté, parce que l'écoute et la parole, c'est deux choses vraiment complémentaires, et l'écoute, c'est très, très important. Beaucoup de gens ne sont pas beaucoup écoutés. Là, ils sont écoutés, et en plus, ils emmènent les gens quelque part. Et une histoire, c'est ça qui est bien, c'est que ça part d'un point à un autre. Il y a un déroulement comme un petit chemin qui fait que c'est comme une petite vie qui est cohérente, qui se boucle à la fin. Et donc ça donne beaucoup de cohérence pour quelqu'un qui, des fois, a une histoire lui-même ou elle-même difficile. Et je pense que les contes sont magnifiques pour ça parce que chacun peut les raconter à sa façon. Il y en a une petite histoire que je leur raconte des fois, et il y en avait plusieurs qui avaient sauté dessus parce que ça leur semblait. C'est une histoire que vous connaissez peut-être. Dans une maison, il y a un homme, son fils et le grand-père. Et un jour, l'homme dit au fils, j'ai demandé au grand-père qu'il s'en aille. Il est devenu inutile maintenant. Donne-lui une couverture pour qu'il n'ait pas froid. Et l'enfant prend une couverture, il la coupe en deux, il en donne une moitié au grand-père. Alors son père lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu lui donnes qu'une moitié? Et l'enfant, il dit, mais oui, papa, parce que l'autre moitié, je la garde pour toi quand tu partiras. Et alors, cette histoire, ils sautent dessus parce qu'ils disent, alors nous, c'est pas possible. Ça, c'est une histoire qui n'est pas possible. Et je dis, mais quand même, si tu l'as dans ton village ou dans un... Alors, ils reprennent l'histoire, mais avec un décor différent, des personnages différents, des gens qu'ils n'aiment pas trop, ou je ne sais pas. Enfin, disons qu'ils la prennent avec eux. Et donc, ils la comprennent, étymologiquement. Voilà. Et donc ça marche comme ça, et c'est après, je ne dis pas que tout est facile, mais c'est un petit peu fabuleux quand on arrive à le faire plusieurs fois, parce qu'on peut raconter des histoires tous ensemble, ou des histoires individuelles, ou à deux, et ça donne de la force, même des petites histoires, hein, des petits contes.
Voilà, on va se tourner vers Zizi. Alors il y a un proverbe qu'on avait utilisé dans le légendaire, dans le programme à un moment donné, qui dit « Sois humble ». Car tu viens de la terre, sois noble, car tu proviens aussi des étoiles. Et je crois que ton livre s'appelle La Marchande d'étoiles.
Waouh.
Waouh.
Oui.
Ça vient du Maghreb, je crois. Wow.
Mais je l'ai appelé, mais je ne sais pas si c'est intéressant que je le dise, mais...
Au moins de nous citer une petite expérience à l'intérieur, enfin...
Non, je voulais juste dire pourquoi je l'ai appelé Marchande d'étoiles. C'est parce qu'un jour, j'ai fait... un rêve, je vais résumer, j'ai rêvé que vous savez, on vient toujours nous chercher à la gare, hein, y a des conteuses ici, on vient nous chercher à la gare et puis on nous amène dans le lieu, mettons une bibliothèque, et la personne qui est venue nous chercher nous présente et dit, je vous présente Gigi Bigot, c'est la conteuse, elle va faire le spectacle ce soir, bon. Et dans mon rêve, la personne qui venait me chercher, elle disait à son équipe, je vous présente Gigi Bigou, elle vend des étoiles. Donc voilà. Bon, c'est tout. Et sinon, qu'est-ce que tu voulais me demander?
Une petite partie du livre, c'est-à-dire une rencontre, un temps fort dans le livre. Il y a beaucoup de récits, en fait, de ton parcours.
Oui.
Et juste peut-être un petit bout.
C'est-à-dire que là, la table ronde, c'est plus par rapport au public éloigné. Moi, je travaille beaucoup avec les gens d'ATD Quart-Monde. Mais ce qui est le plus important dans ce livre, et mon travail avec ATD Quart-Monde n'en est que la partie pratique en quelque sorte, c'est que je revendique la nécessité de passer par l'imaginaire, hein, par le non rationnel, par la parole symbolique. Et c'est vraiment ce qui m'a amené à travailler avec les gens d'ATD Quart-Monde. Alors, je ne sais pas si j'en parle maintenant. Est-ce que vous connaissez le mouvement ATD Quart-Monde? Je vous donne le principe pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un mouvement qui combat la misère. Mais le principe, le principe du fondateur, Joseph Wresinski, qui lui-même a vécu la grande misère à Angers. C'est un gamin très, très pauvre. Et quand il est devenu prêtre, et il a fondé ce mouvement avec les principes suivants. La misère ne peut s'éradiquer sans le savoir et l'expérience de ceux qui la vivent. C'est basique. Le deuxième principe, c'est que les gens en grande pauvreté ne pourront tout seuls éradiquer la misère. Il faut qu'ils s'allient avec des personnes qui sont dans d'autres endroits de la société. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir lutter contre la misère. Le troisième principe, c'est il faut écouter toutes les paroles de ces personnes en grande précarité. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est être entendu. Et le principe, c'est qu'on écrit l'histoire des riches et des puissants. On la trouve partout, l'histoire des riches et des puissants. Et à ATD Quart-Monde, il y a énormément d'archives. On demande aux gens de raconter. Et Et moi, j'aime beaucoup ce mouvement qui est à l'origine, par exemple, du RMI, qui est devenu le RSA, qui est à l'origine de la loi contre la grande pauvreté, de la loi contre la discrimination sociale. Bon, je n'en dis pas plus sur ATD. Mais ma part à moi, en tant que conteuse, c'est que la parole symbolique, l'imaginaire, nous permet de dire aussi la misère d'une autre manière que le témoignage. Et quand on est venu me chercher, il y a, c'était en 99, c'était, les gens d'ATD Quart-Monde sont venus me chercher pour qu'on sorte des témoignages. Hein, les témoignages, j'ai vécu ça, le factuel, quoi, le rationnel. Et avec les gens, mon groupe, là, le quartier de la Lune, on invente des histoires, mais avec l'obligation de passer par l'irrationnel, par la parole symbolique. Donc ça c'est le principe. Et donc, dans ce livre, il y a peut-être le tiers ou le quart, en tout cas, qui raconte ce qu'on fait ensemble avec ces gens en grande pauvreté. Et tout à l'heure, quand je reprendrai la parole, je vous dirai quelques phrases des gens qui travaillent avec moi, qui inventent des contes, quoi. On invente des contes. Et ce qu'ils disent du fait de passer par la parole symbolique.
Merci. Du coup, je me tourne vers Emmanuel. Et pour rebondir sur le pourquoi. En fait, pourquoi, en fait, en tant que médiateur culturel, en tant qu'association d'éducation populaire, on fait ça? Quelles sont nos intentions, nos objectifs, hein, en tout cas, qu'est-ce qu'on recherche?
Pour moi, la Ligue de l'enseignement, qui est un mouvement d'éducation populaire, c'est donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et du coup, comment aussi auprès des personnes détenues auxquelles je travaille, c'est leur donner et leur redonner une place dans la société. Toujours dans mon souci de porter la parole des personnes détenues et de rester dans la thématique de l'imaginaire, quand j'ai collecté en fait les différentes définitions et avis sur l'imaginaire et activités culturelles, je me suis rendu compte qu'il y avait deux types d'imaginaire, enfin pas deux types d'imaginaire parce que l'imaginaire c'est un tout, mais en tout cas deux types d'imaginaire que les détenus pouvaient expérimenter. La première forme, c'était plutôt un imaginaire vécu de manière individuelle, c'est-à-dire seul dans leur cellule, avec cette espèce d'urgence de s'évader dans l'imaginaire pour contrer contre les effets déshumanisants de la prison. Et là, en fait, je vais vous citer et porter leurs paroles. Donc, pour Moussa, par exemple, l'imaginaire, pour moi, c'est un moyen de s'échapper de la réalité lorsque celle-ci est dure à supporter. C'est une sorte d'armure contre la réalité amère. L'imaginaire est un monde dans lequel j'aime me réfugier lorsque ça ne va pas. Pour Nidal, et là j'aime beaucoup l'image qu'il utilise, en prison, tu ne vas pas regarder la porte et te dire qu'elle est fermée. On rentre dans sa bulle, une porte fermée devient une porte ouverte grâce à l'imaginaire. C'est créer un monde à soi dans sa tête. L'imaginaire, c'est être dans un endroit que tu veux être. L'imaginaire, c'est fermer les yeux, penser fort. Donc là, on se rend compte que par le biais de l'imaginaire expérimenté de manière individuelle par l'écriture, la lecture et la pensée, on sent que c'est vraiment une armure contre cette réalité déshumanisante. Et de l'autre côté, on a un imaginaire plutôt expérimenté collectivement, et là c'est le cœur des missions de la Ligue de l'enseignement, c'est comment créer un espace en fait où l'imaginaire se crée, mais de manière collective, et du coup comment recréer un rapport de vivre ensemble, vivre ensemble c'est un grand mot, mais de vivre ensemble, et comment inconsciemment ils reprennent en fait ces codes du vivre ensemble, le respect de l'autre, l'écoute, la confiance. Et là, je vais les citer encore une fois. Donc, pour Nidal, les actions culturelles nourrissent mon imaginaire. Pour Moussa, l'imaginaire permet d'exprimer la créativité qui sommeille en nous. Mike trouve que les activités culturelles soudent un peu plus les liens les uns aux autres et évitent la solitude. Et pour Nicolas, les activités culturelles permettent d'oublier la solitude de l'incarcération et de nous épanouir dans divers projets. Voilà ce que je pouvais en dire.
Oui, c'est important parce que on vient d'entendre ce mot nourriture et tout à l'heure on a parlé des besoins fondamentaux. Il est vrai qu'on ne peut pas vivre sans boire et manger. Il est vrai qu'il y a des besoins qu'on ne peut pas échapper. Mais souvent on va oublier que ce besoin d'imaginaire, en fait, il est aussi porteur et il est aussi moteur. Et nous, en fait, avec l'expérience là, que ce soit en détention ou dans les foyers sociaux, On a remarqué ça, c'est qu'une personne se remet en mouvement, se repart en fait dans un chemin parce que en fait son imaginaire se remet en route. C'est pas parce qu'elle a à manger, c'est pas parce qu'elle a un toit, c'est aussi parce qu'elle a à manger et aussi parce qu'elle a un toit, elle peut se poser, mais c'est aussi parce que son imaginaire se remet en route. Et souvent dans les ateliers, les personnes qui participent et qui font ce chemin-là, en parallèle, ils vont aussi se réinscrire à d'autres activités, que ce soit le travail, l'école, la bibliothèque, le sport, mais ce travail en fait, voilà, sur l'imaginaire a toute son importance au même stade. En tout cas, on peut pas les mettre à un degré inférieur ou supérieur. C'est au même stade que les autres besoins. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui est en pays de conflit, son premier reflet, c'est de partir dans l'imaginaire. Sinon, il lâche prise en fait et il ne peut plus vivre. Donc là, nous, en détention, on voit ce besoin d'urgence et ce besoin d'imaginaire pour se raccrocher et pour relancer en fait un nouveau départ. Dans l'imagination, il y a cette faculté, la faculté d'inventer, de créer et de concevoir. Mais c'est surtout toute cette faculté à pouvoir se projeter à nouveau, en fait, partir vers un autre avenir, quoi.
Un petit peu embêtant quand on dit l'imaginaire, c'est pour s'évader. Parce que c'est pas vrai. L'imaginaire, c'est pour s'évader, mais c'est pour revenir vivre sa vie, quoi. J'aime pas quand on dit ça, parce que c'est pas vrai, c'est pas fuir, hein, s'évader, c'est pas fuir, c'est l'imaginaire, mais après, trouver de la force pour vivre sa vie, quoi.
Ouais, c'est ça qu'ils cherchent en fait, et c'est vrai que c'est ça que les personnes en difficulté vont rechercher, et c'est pour ça qu'il y a cette puissance, on dit, de l'imaginaire, puisque pour eux ça a la portée de les porter et de les mettre droit, quoi, en fait. Ouais. Donc je me tourne vers Sabine, parce que du coup, en résonance avec les propos de Gigi sur ATD, Sabine est engagée aussi militante sur le mouvement ATD Quart-Monde à Nos gens le retrou, et il y a ce travail en fait de théâtre en fait qui a été mené là depuis un an, et dont le travail sera montré au foyer d'accueil Chartrain le 1er décembre prochain avec la troupe en fait, donc d'ATD Quart-Monde de Nos gens.
Ouais. En fait tout résonne, alors j'aurais je sais plus par où mais en fait j'étais censée venir pour faire des virgules poétiques aussi, alors avant de parler d'ATD je vais dire un petit, et puis je devais dire des poèmes de gens connus, et bien finalement j'ai pas du tout faire ça, je vais dire un poème de issu d'un des petits livres qu'on a fait là, Les belles rencontres, avec le, donc c'était des rencontres à la loupe avec des gens qui sont dans un CADA, et puis avec des gens, des enfants, des familles françaises qui emmènent leurs petits-enfants, qui sont plutôt aussi des personnes plutôt démunies, qui sont un peu isolées en ruralité, et qui rencontraient, c'était une manière de se rencontrer en poésie. Et puis de temps en temps, c'était des belles rencontres. Et puis il y a eu une petite pépite, là. Tu m'as dit tout à l'heure comment il s'appelait, le petit garçon, ça m'a échappé. Mince. Bon, alors il s'appelle, il va nous dire après comment il s'appelle, mais il était incroyable. C'était un enfant, c'est comme si... Marvin. Alors, il n'est pas du tout américain. Hein. C'est plutôt peut-être guinéen, ou je ne sais plus. Mais en tout cas, il est dû naître en France. Il parlait, vous allez voir comment il s'exprime en français. Mais c'est comme si lui, sa langue maternelle, c'était la poésie, en fait. Je ne crée pas le monde, mais le monde me crée. Le monde est une source d'inspiration. J'écris avec les larmes de mon cœur. Je ne peux pas briser le monde, mais le monde peut me briser. La terre est trop lourde. Il vaut mieux aller en avant qu'en arrière. Voilà. Marvin, il était haut comme ça. Mais oui, il se faisait appeler Marvin le Grand. Vous comprenez pourquoi. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, mais très importante, je trouve. Oui, je voulais rebondir parce que donc moi aussi je suis alliée du mouvement ATD Quart-Monde. Donc voilà, je suis très heureuse qu'on soit ensemble. Et en fait, mes amies qui sont reparties là, parce que je sais pas, elles ont eu peur de m'intimider, je crois. Elles m'avaient offert le livre de Gigi Bigot, Marchande d'étoiles, que j'ai lu, j'ai annoté, qui m'a passionnée. Et nous, on vient donc depuis 2 ans, donc il y a un groupe ATD Quart-Monde, le seul pour l'instant en Eure-et-Loire, qui a Nos gens le retrou et qui existe depuis plus de 20 ans. Et donc moi c'est mon autre casquette, en plus d'être diseuse de poèmes, animatrice d'ateliers d'expression poétique, je coordonne des projets culturels au sein de ce mouvement, au sein de ce comité. Et là donc le dernier projet qu'on a mené depuis mars 2018, c'est un projet qui s'appelait « S'exprimer ensemble pour mieux vivre ensemble ». Voilà, c'est aussi parce qu'on est un peu obligé de mettre des mots comme ça. Mais en fait c'était surtout pour se rencontrer des personnes du quartier des Gauchetières, à Nos gens le retrou, des personnes qui vivent là depuis longtemps, et avec les nouvelles personnes qui sont arrivées, donc des personnes qui demandaient l'asile, ou les personnes réfugiées. Et comme ça n'avait pas été tellement préparé, ben, ces personnes-là, elles ne se comprenaient pas. Ou les personnes qui habitaient là depuis longtemps, qui étaient elles-mêmes en grande précarité, puisque c'est les personnes en plus grande précarité de la ville, elles comprenaient pas pourquoi ils avaient des appartements, pourquoi plein de choses. Et donc parce qu'il y a cette façon de ne pas expliquer les choses pour que ça se passe pas bien, je veux pas trop m'étaler, c'est pas la question, mais et du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce qu'on était un peu choqués, parce que même au sein de notre mouvement, au sein de notre comité, il y avait des gens, des militants ATD Quart-Monde, qui sont vraiment des gens très engagés, qui disaient des choses comme ça, qui disaient mais il y en a marre d'entendre parler des migrants, pourquoi ils auraient plus de choses que nous. On entendait des choses comme ça et on se disait notre rôle à nous, peut-être, puisque c'est de faire se rencontrer ces gens, et peut-être autour de l'art, pour que peut-être s'ils se rencontrent, ils vont comprendre, on ne va pas avoir besoin de leur expliquer. Parce que dans le mouvement ATD Quart-Monde, c'est quand même... tu en as très bien parlé, et c'est quand même un des seuls mouvements que je connaisse où il y a des journées familiales art et poésie. et c'est pas moi qui l'ai inventé, donc c'est Joseph Brzezinski qui a inventé ça, où il a toujours dit que c'est comme l'histoire de la bibliothèque, que le plus important, c'était que les gens avaient soif de beauté, en fait. Voilà. Je reviens à Jean du Voyage. Donc le projet S'exprimer ensemble pour mieux vivre ensemble, on est parti de faire raconter une histoire de quelqu'un qui habitait le quartier. Ah oui, je vous disais que c'était pour les faire se rencontrer. Donc on est parti de l'envie d'un habitant, d'un militant quart-monde, de raconter sa vie. Lui, il était né dans une caravane. Sa caravane a brûlé. Il a fini par... ils ont été relogés dans une maison complètement insalubre. Et puis après, ils se sont retrouvés en HLM. Et dans un HLM, il a fallu rencontrer les autres, rencontrer des gens qui étaient... différent. Et donc il a raconté ça dans une page. Et lui-même qui hier avait du mal à comprendre l'arrivée des personnes migrantes, lui-même pourtant il avait écrit une page en racontant que il avait fallu, pour la seule manière de se comprendre, c'était de devenir tolérant. Et du coup on s'est dit on va partir de ce texte-là. On est parti de ce texte-là et on a proposé à tous les gens du quartier, donc migrants et personnes habitantes depuis plus longtemps, de venir faire du théâtre, donc avec Marion Marais, du slam avec Martine Salmon, des marionnettes avec Violaine Roméas et du clown avec Nathalie Le Guillanton. Donc on a proposé des ateliers pendant un an, toutes les semaines des ateliers, qui ont mené à un projet de théâtre qui va donc être joué le 1er décembre après Pepito Matteo au même endroit, au foyer de...
Le lendemain.
Au foyer d'accueil Chartrain. Et ça sera la dernière, puisque le projet, c'était d'abord de le créer et après de le tourner pour que les gens sortent du quartier. Alors, je vais juste, si tu permets, lire le témoignage de la personne qui avait écrit le texte et qui est aussi l'acteur principal, et qui était cette personne... Voilà. Peut-être qu'au lieu de garder pour soi son vécu, il est bien de l'exprimer sous plusieurs formes, notamment sous forme culturelle, théâtre, chant. Les mauvaises expériences que l'on a dans notre enfance, dans notre vie, sont peut-être bonnes pour la vie future, pour ne pas faire aux autres ce qui t'a fait mal, pour relativiser, pour affronter la vie plus sereinement. Et puis ce projet, moi, ça me fait dire que même si on croit au fond de nous-mêmes qu'on n'est pas capable de faire des choses, en fait, on est capable de les faire et de les faire bien. En plus, une des participantes habitantes du quartier qu'on a connue grâce à ce projet a découvert une vraie attirance pour le jeu de clown. Il s'est avéré qu'elle veut continuer dans ce sens-là. Donc on peut dire que ça a changé sa vie. Et puis, ce projet a permis de fédérer plein de personnes et faire réviser leur point de vue à certaines sur la relation avec les migrants. Moi, par exemple, peut-être que je pensais que les personnes migrantes étaient là que pour recevoir et non pour donner. Et avec ce projet, j'ai appris qu'ils avaient vraiment envie de participer et qu'eux aussi avaient envie de se mélanger aux autres, de se faire apprécier. Et puis, je répète, on a combattu l'idée reçue selon laquelle les plus précaires ne sont pas capables. C'est ce qu'ils pensent aussi, de s'investir dans un projet. En allant au bout, ils montrent que malgré leur vie difficile, ils sont capables de s'investir.
Merci. On va faire un dernier tour de table et peut-être penser à quelqu'un de précis et livrer à nouveau un dernier témoignage. Moi, je m'inclurais peut-être dans la table ronde et je vous donnerai peut-être quelqu'un comme ça. Pepito ?
Oui, je ne vais peut-être pas répondre tout à fait à ta question.
C'est normal.
Mais
les questions sont essayées pour être détournées.
Ce qui se dit là me fait penser à une chose. C'est que, par exemple, quand j'allais faire des ateliers auprès des détenus, il y avait les surveillants qui disaient « Nous, on n'a pas le droit aux ateliers ». Et moi, j'ai fait des ateliers à l'ENAP, qui est l'école de formation des personnels pénitentiaires à Agen. Et je leur faisais faire les mêmes choses que je faisais faire aux détenus. Et même quand ils allaient faire des stages en détention, je leur disais « Qu'est-ce que vous ramenez de là-bas ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Quelles sont les images qui vous sont venues ?» Donc je les mettais aussi dans cette situation-là pour qu'ils aient aussi, eux, le droit de sortir un peu de leur métier qui est difficile, de faire un pas de côté. Et moi, pour moi, l'éducation populaire, c'est ça. C'est avoir une deuxième chance aussi de pouvoir faire un pas de côté par rapport à la scolarité qui est quand même assez linéaire et pouvoir étudier autrement. Moi, j'étais un très mauvais élève Et à 15 ans, je me faisais renvoyer de partout. Et j'ai travaillé des petits boulots et tout ça. Et j'ai repris les études à 23 ans grâce à la fac de Vincennes qui était ouverte aux non-bacheliers et aux travailleurs. Et grâce à ça, j'ai pu reprendre des études, même faire du théâtre, etc. Mais je veux dire que dans cette fac, ce qui était vraiment important, c'est qu'on ne faisait pas des cours magistraux. On discutait, chacun apportait son point de vue, défendait ses idées. Bref, on apprenait à penser librement. Et ça me paraît vraiment important, cette question de pouvoir étudier toute sa vie, qu'on soit travailleur, qu'on continue d'approfondir ce qu'on a envie d'approfondir, on est en mouvement. Et je suis allé dans une école, dans un collège il y a 2 jours, et j'y vais pas très souvent, et à la fin, les profs m'ont dit, il nous manque beaucoup ces moments-là de pouvoir passer par l'imaginaire, s'amuser, etc. Parce que je leur faisais faire des jeux, puis je leur racontais des histoires. Et je leur dis, vous n'avez pas le temps de le faire. Elle dit, on n'a plus le temps. Avant, on avait 6 heures en français. Maintenant, on n'a plus 4 heures et demie. Parce qu'on doit faire des évaluations. Et donc, on est passé. Elle a dit, on n'a plus le temps de faire ce travail de côté. On doit faire du chiffre. Et elle m'a dit, et d'ailleurs, on est obligé de les évaluer. Et on en est désolé parce que nous, on est évalués aussi. Et ceux qui nous évaluent sont évalués. Donc on est dans un cercle du chiffre, et quand nous, on nous demande, les compteurs, combien vous arrivez à toucher de gens, on répond, non mais nous on les touche beaucoup, au contraire.
Merci, c'est bien de détourner les questions, c'est super. Sabine ?
Bon, alors moi aussi je vais détourner, je vais te demander un truc particulier. Pour une personne particulière, alors moi je vais dire un poème collectif. voilà, je vais juste dire un poème qui, en fait avec des personnes aussi d'un CADA qui parlaient, qui étaient tous en apprentissage du français, et c'était un atelier avec eux et les bénévoles qui leur apprenaient le français. L'atelier poésie était destiné en même temps aux personnes qui apprenaient et aux personnes qui leur apprenaient. On était tous, ils étaient tous à pied d'égalité, puisqu'ils apprenaient une nouvelle langue, mais qu'ils connaissent tous, parce que la poésie, c'est la langue maternelle de tout le monde. Et du coup, ils écrivaient, pour qu'on soit vraiment sur pied d'égalité, je leur demandais de traduire des poèmes dans une langue que personne connaissait. Alors, par exemple, ils ont traduit un poème hindi, là, alors qu'ils étaient d'Azerbaïdjan, de Congo, de l'Angola, tout ça. Voilà. Et donc, avec le peu de mots qu'ils savaient, moi aussi, j'ai des jeux, tout ça, des boîtes avec des mots, et puis qu'eux, ils mettaient dedans, tout ça. Et bien, ça a donné un poème comme ça. Le premier, donc sa traduction d'un poème hindi, ça donnait ça. Du fond de notre cœur, pays de ma tendre enfance, pays que j'ai quitté à grand regret, pays que je voudrais revoir un jour, pays de tous les humains, mon premier amour d'enfance, pays où les gens sourient, pays d'amour, de tendresse, pays de bon accueil, pays que j'ai trouvé après un long voyage, pays dans lequel le voyage est possible. La vie est un voyage sur une seule route, pays dans lequel j'ai la foi. Mon cœur est triste, mais mon corps avance. Pays, l'humanité vient du fond de notre cœur.
Merci.
C'était un collectif d'un petit groupe.
Qui est-ce qui a écrit ça ?
Donc c'est un poème collectif de mélange de personnes françaises et de personnes apprenant le français avec le peu de mots et tous ensemble, quoi.
Alors du coup, je me tourne vers Emmanuel. Je crois que tu avais vraiment la réponse à la question.
Ouais. Les deux. J'ai la réponse à la question et je vais la détourner aussi. Non, je voulais juste terminer en disant que c'était important pour moi que ma mission en détention, c'était pour moi d'utiliser la culture comme un joli prétexte pour recréer des rapports humains entre les détenus. Voilà, de leur donner confiance en eux, de les valoriser et leur dire voilà, qu'ils ont une place dans la société et qu'ils peuvent y retourner, quoi. Leur donner une vision positive de la société, en tout cas. Et nous, la Ligue de l'enseignement, c'est important en fait, de penser qu'un être humain n'est pas réductible à ses actes et que chacun est susceptible de s'améliorer. Et du coup, c'est vraiment ça, l'émancipation, c'est vraiment se libérer des cadres très limitants qu'on peut avoir et de se dire qu'un détenu ne restera pas détenu toute sa vie. Et là, ça me fait penser du coup à Nidal lors d'une permission de sortir. Parce qu'en prison, il y a des activités qui se passent dans la prison. Mais heureusement, on peut aussi prévoir des activités à l'extérieur. Ça se prévoit, voilà, c'est très cadré. Mais on peut emmener les personnes détenues à aller voir un spectacle au théâtre ou assister à des ateliers à l'extérieur. Et donc Nidal faisait partie des participants, des quatre participants d'un spectacle de danse contemporaine et était intégré avec tout le public, enfin comme quand on va voir un spectacle. Et en fait, il était impressionné de se dire qu'il allait faire la file avec tout le monde. Et comme une espèce de barrière en se disant mais les gens vont savoir qu'on est détenu et du coup voilà moi j'étais là à dire bah non mais c'est pas écrit détenu sur le front et voilà de leur redonner confiance enfin ça c'est vraiment quelque chose qui m'a bien marqué quand même ce fameux Nidal et je voulais terminer sur un poème collectif alors il me semble que celui-ci il était collectif lors d'un atelier avec notamment Sabine qui a eu lieu cette année là en mai 2019 et en fait le principe c'était de libérer l'imaginaire poétique par le biais et par l'inspiration d'œuvres photographiques sur l'émerveillement de Donietta Romeas. Et donc il y a ce poème que je trouve très chouette que je voulais vous partager. S'emparer de la beauté, atteindre les sommets, s'émerveiller de l'abstrait, contenir le concret, puis s'éblouir du vrai. Nuage gris comme ce pullo vert, électrique comme ce réverbère. Quelle beauté de vivre sur Terre, se rendre compte qu'on n'est pas seul, même si seul je m'endors dans cette cellule sombre.
Alors, est-ce que je peux rebondir ? Parce que si. Moi, je me souviens très bien de comment il a été écrit. Et je voudrais raconter l'anecdote parce que donc c'est parti d'une expo de photos donc de Donietta Romeas. Dont Emmanuel avait la bonne idée que ça soit dans une coursive, c'est-à-dire dans un je sais pas, tu peux expliquer ce que c'est un couloir très sombre. Et c'était pour ça que ce projet s'est appelé des fenêtres sur la beauté. Et l'idée, c'était que ces reproductions, donc Emmanuel et Donietta sont allés les mettre dans la coursive. Et le gag, entre guillemets, c'est qu'elles étaient tellement belles qu'elles ont été volées au fur et à mesure. Mais voilà, voler de la beauté, c'est pour ça que, en fait, cette formule s'emparer de la beauté, c'est Donietta, en fait, qui l'avait proposée, comme elle me disait, mais fais-leur parler de ça après, essaye de les faire s'exprimer sur s'emparer de la beauté. Et c'est comme ça que c'est venu. Après, ça a été elles ont été retrouvées, et puis est-ce qu'on peut avouer qu'il paraît qu'il y en avait aussi chez les gardiens, hein, et c'est pas seulement pour dire que voilà, la beauté, tout le monde en a besoin, et en effet. Et d'ailleurs, tout à l'heure, ce que Pépito a dit par rapport aux gardiens, ça m'a vraiment interpellée, parce que tu te souviens, Emmanuel, il y en a qui ont participé sans même qu'on leur demande, qui sont restés et qui ont. Et c'était trop bien. Donc voilà. Voilà.
Alors, on va demander à Gigi de détourner la question. Bah, il n'y en a plus, en fait.
Mais c'était quoi ta question ?
La question, c'était un dernier souvenir, un dernier moment fort avec une personne.
Je ne vais pas répondre à cette question.
Voilà.
Non, je voulais rajouter quelque chose à ce que je vous disais tout à l'heure sur le travail que je fais à TD Carmonde. C'est que ce que j'aime dans le travail que je fais avec eux, c'est que nous ne sommes qu'une... une autre manière de mener le combat. Mais la chance que nous avons, alors peut-être qu'en prison, il y a quand même le contexte. Nous sommes en prison, qu'est-ce qu'on peut dire ? Et dans ATD Carmonde, il y a beaucoup, comme tu dis, d'art et de culture, parce que le fondateur était d'une si grande pauvreté qu'il a été très frustré de ne pas avoir connu la musique, tout ce que les gens plus aisés avait droit, quoi. Et à ATD Carmonde, ce que j'aime, c'est que notre groupe compte, il n'est que partie prenante de tous les autres moyens de lutte. Mais nous en faisons partie. Notre travail de compte fait partie de ce combat. Et du coup, ce qui est super, c'est que nous avons quand même une philosophie commune et nous partons des thèmes d'ATD Carmonde, puisque chaque année il y a un thème. Cette année c'était sur les droits des enfants. Donc nous avons inventé un conte sur un enfant placé, puisque toutes les familles en grande pauvreté ont subi le placement, soit eux-mêmes, soit leurs enfants. Enfin bon. Et pour finir, je vais juste vous dire deux, trois phrases, parce que je suis épatée de ce que ces gens, et qui ne connaissent absolument rien au conte, hein, à part peut-être Blanche-Neige et le petit chaperon rouge, mais ils ne connaissent pas le conte, ils disent... C'est nous qui faisons du conte populaire. Parce qu'ils ne savent pas que le conte populaire, c'est une expression qui existe. Et donc, le fait de passer par l'imaginaire et la parole symbolique, je vais vous dire quelques phrases que j'ai dit à la conférence hier, mais je les redis. Il y a une personne qui dit « Les témoignages, c'est trop violent. Ça peut culpabiliser les riches. » Les contes, ça peut se donner sans culpabilité, ça peut faire changer, c'est le but, faire changer même un tout petit peu. Et nous, nous le savons, nous qui sommes conteurs, nous savons que les contes peuvent tout d'un coup toucher et réveiller quelque chose, apaiser. Alors je vous en dis deux autres, c'est une autre personne, parce que ils ne racontent pas leur vie, hein, puisqu'on n'est pas dans le témoignage. Mais quand on fait un conte, nous aussi, on part toujours quand même de nous, hein, même si le scénario ne parle, c'est pas je. Alors, une dame dit, il faut que ça sorte. On ne peut pas garder de dire, de l'écrire, c'est un médicament, c'est de la prévention. Vous voyez, quand on raconte un conte sur le placement, elle dit, quand on met en conte, ça adoucit la plaie. Ça aide à se décrocher de la douleur. Et je vous en dis un dernier, parce que franchement, c'est beau, non? C'est fort, quoi. Le dernier, je vais vous dire, ce qu'on fait, c'est différent des autres contes. Il y a plus de vérité, plus de choses sur la vie qui donnent espoir aux gens. Alors qu'on passe par l'irrationnel. Mais... c'est plus de vérité, plus de choses sur la vie. Voilà, donc, moi, je suis épatée quoi, de voir comment des gens qui n'ont absolument pas la culture conte s'approprient l'irrationnel et l'imaginaire.
Merci. Eh ben moi, j'avais dit que je participais autour de la table. Et en fait, je voulais faire le rapport avec le légendaire. Alors, ça va peut-être étonner Pascal, mais en fait, ce n'est pas du tout un atelier et tout ça. Mais... alors, l'éducation populaire, c'est ça aussi. On est venu ici, en fait, on a pris les locaux et on avait un jeune gardien de la sécurité qui était là tous les après-midi avec nous. Et lui, en fait, il a passé la nuit à observer les œuvres de Frédéric Clément. Il a passé sa soirée dans le couloir, mais il écoutait la voix de la chanteuse turque. Il a eu la chance de se faire dédicacer son livre. J'ai la voix qui tremble parce que franchement, c'était une très belle rencontre parce que il a acheté le livre, il s'est fait dédicacer. C'est aussi ça l'éducation populaire, c'est que lui il n'était pas venu pour ça à la base, il était venu pour surveiller le bâtiment et lui permettre ça en fait, en tout cas se permettre cette rencontre, c'est fort parce que il s'est vraiment emparé en fait de l'événement pour le vivre en gardant en fait sa place de surveillance. Et il l'a très bien fait d'ailleurs, hein, il a gardé son côté professionnel. Mais en tout cas, il s'est complètement emparé de l'événement et il en a beaucoup, beaucoup profité. Et on en était, moi j'étais très content pour lui. Donc c'est aussi ça en fait, notre part, c'est de tout au long de la vie, à n'importe quel moment, ce jeune garçon là, voilà, a pu vraiment profiter de ça. Et moi je voulais juste finir sur ces paroles de Marvin, qui à la fin des ateliers avait écrit ce petit texte aussi. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie de m'apprendre à découvrir le monde et de partager ce bon moment familier, agréable et poétique. Et on va finir en poésie avec Sabine.
Je ne peux pas finir sans dire un poème de Nazim Hikmet. Je suis dans la clarté qui s'avance. Mes mains sont toutes pleines de désirs. Le monde est beau. Mes yeux ne se lassent pas de regarder les arbres si verts, les arbres si pleins d'espoir. Je suis à la fenêtre de l'infirmerie. Je ne sens pas l'odeur des médicaments. Les œillets ont dû s'ouvrir quelque part. Être captif, là n'est pas la question. Il s'agit de ne pas se rendre. Voilà. Voilà. Je voudrais faire un petit clin d'œil à Nathalie Arnoux, qui est donc la personne par laquelle je fais de la poésie au sein de la Ligue de l'enseignement. Et je pense qu'on s'est rencontrés en particulier un jour où j'avais 10 poèmes, et c'est assez facile pour terminer une table ronde. c'est un poème de mon père, Jean-Pierre Ronet, et qui est comme ça. Je m'étais dit que je ne le dirais plus jamais, mais aujourd'hui je me suis dit que c'était l'occasion. Puis en plus, comme j'ai appris que Damien avait cassé plein de vers ce matin, j'ai trouvé que c'était pas mal de dire ce poème. Nous avons tout dit, tout nous reste à dire. Il nous faudra tout délier. Les cœurs sont comme des tirelires. Pour en voir le fond, il faut les briser. Nous avons tout dit, tout nous reste à dire. La mer à boire aux nuits d'été. Les cœurs sont comme des tirelires. Pour en voir le fond, il faut les briser. Nous avons tout dit, tout nous reste à dire. Je t'aimais bien trop pour t'aimer. Les cœurs sont comme des tirelires. Pour en voir le fond, il faut les briser.
Fin de cette table ronde, c'était la dernière table ronde proposée lors des rencontres du Légendaire 2019. Merci à la compagnie AMSA, à tous ses partenaires, bien sûr au conseil départemental qui nous accueillait dans les locaux de l'Eurélium à Chartres. Si vous souhaitez réécouter cette table ronde et les autres, rendez-vous sur le site de Radio Grand Ciel, www.radiograndciel.fr.